taillis de mes quatre doigts feront mon escalade comme de jeunes oiseaux. Glissant entre mes seins ainsi qu'entre deux dunes, nul besoin de guitare, de bouquet ni de gants pour obtenir de moi des voluptés confuses. Je suis ouverte à tous, il suffit que l'on use de mon ventre comme d'un luxurieux toboggan. Ben oui, quoi, je suis la géante du vallon noir, celle qui vous affole et qui hante dans les chaumières et les manoirs vos libidos ahurissantes. Ben oui, quoi, je suis la géante. Si je les ai tous eus, je n'en regrette qu'un qui n'était brute épaisse, ni seigneur mirifique, mais simple entichet d'or.
Vous êtes bien sur la radio libertaire 89.4 FM sur les ondes et en ligne. La radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. La voix de la Fédération anarchiste dans l'émission, on a déjà traité le sujet d'ADOC, l'association des cinéastes documentaristes. Dans le studio aujourd'hui avec nous, Caroline Kim Morange. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Colline Bevelet. Bonjour Colline.
Bonjour.
Et moi-même, Santiago Laurent. À la technique, nous avons Marcia Lacombe et Anne Galland. Pour cette émission, on a déjà traité le sujet. Nous avons trois réalisatrices. Nous avons Claudine Boris pour son film Juliette du côté des hommes. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Et nous avons Stéphane Mercureux pour son film Quelque chose des hommes. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et nous avons Méo Hua qui va arriver d'ici quelques minutes pour son film qu'elle a co-réalisé avec Jerry Hyde, Make Me a Man. Vous avez toutes les trois réalisé un film qui interroge la notion de masculinité, pris le temps de filmer les hommes, de les interroger et de les écouter. Alors pour commencer, je vais commencer avec le film de Claudine, que je vais présenter tout de suite. Alors, Juliette du côté des hommes, qui a été réalisé en 1981. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises dans ce qui va suivre. Il a été vainqueur du Grand Prix Cinéma du Réel de la même année. Pour ton second film, Claudine, tu tournes ta caméra vers les hommes. La spontanéité du micro-trottoir laisse place à un dispositif plus construit, celui des entretiens avec des sujets choisis et une technique de montage avec voix off. Dans ce film, tourné en 35 mm, Claudine, tu donnes la parole aux hommes et les écoutes parler d'eux, de leur enfance, de l'amour, de leur sexualité, de leur rapport avec les autres et de leur vie quotidienne. À travers des conversations, tu cherches à les comprendre. Comment c'est d'être un homme, mêlant des moments de vie quotidienne, des activités comme la chasse et la danse, et des réflexions plus générales sur la masculinité. Alors tout de suite, on va écouter un premier extrait qui raconte le désir, en tout cas le désir que tu as du film au tout début. Je t'écoute.
Pas tourné en 35, mais en 16.
En 16 mm. Autant pour moi, on va rectifier ça tout de suite sur nos notes. Ça marche. On écoute tout de suite l'extrait.
Si je suis à un rendez-vous de chantier auquel il n'y aura que des hommes, si je lâchais un petit peu, c'est-à-dire que si j'acceptais qu'un entrepreneur, ce qui est souvent le cas, dise ben, « est-ce que vous venez chasser ?» Bon, je dis d'entrée de jeu que je ne chasse pas, je dis d'entrée de jeu que je ne fais pas de sport, d'entrée de jeu que je n'aime pas les voitures. Alors, je passe pour un puritain, c'est-à-dire que souvent on dit « bon, ben, de toute façon, c'est un puritain, c'est un complexé, un puritain ». Enfin, je ne pense pas que les hommes expriment leur inquiétude aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils l'expriment, ils doivent l'exprimer au travers de manifestations tellement détournées qu'on ne sent pas du tout chez les hommes une inquiétude. Et donc, moi, à la limite, le sujet du film m'intéressait parce que moi, je rencontre des difficultés. mais je me sens pas du tout ni témoignant pour un groupe, ni porte-parole d'un groupe, ni voulant entraîner un groupe. Je pense qu'il n'existe pas.
Tu n'es pas solidaire des hommes.
Non, parce que quand je explique mes difficultés, ils ne les comprennent pas. Alors, donc à la limite, c'est une voie solitaire.
Moi non plus, je ne me sentais pas porte-parole d'un groupe. Et ce film était né d'un désir à moi et pas d'une idée militante. Le désir d'écouter des hommes me parler d'eux, me raconter ce que chacun a d'unique et de secret, son histoire. Un désir ancien, resté vivace, d'histoire vraie. Comme lorsque j'étais petite avec mon père et que j'aurais voulu tout savoir de lui.
Alors tu sais, moi j'ai une petite particularité, Stan.
Alors, on vient d'entendre un extrait qui arrive au tout début de ton film. Et j'ai une première question vis-à-vis de ça, qui paraît simple et à la fois qui risque d'être un peu complexe. C'est comment le film s'inscrit dans ton parcours de cinéaste?
Bah, déjà, c'est quand même le premier. Enfin, c'est le premier film destiné vraiment au cinéma. Avant, j'avais fait une vidéo que j'adore d'ailleurs, qui s'appelle « Femmes d'Aubervilliers », qui était justement sur des femmes de la rue à Aubervilliers. Et après, je me suis dit, mais pourquoi nous, les femmes, on fait toujours des films sur les femmes? Enfin, c'est vrai, c'était une époque où les femmes qui commençaient à travailler dans le cinéma, il fallait qu'elles parlent d'elles, de leur féminité. Enfin, voilà, c'était ça le féminisme. Et moi, je pensais qu'il n'y avait pas de raison d'être à ce point cataloguée dans une seule voie en tant que féministe. J'étais féministe, mais bon, je m'étais toujours sentie, à vrai dire, à égalité avec les hommes. Je n'avais pas ce genre de soucis. Et donc, j'ai eu envie de faire un film sur les hommes. Je veux dire, comme on dit, pourquoi pas, enfin, quand même, c'est pas tabou. J'ai le droit de faire un film sur les hommes, quand même. Bon, d'autant que pour moi, les hommes, c'était vraiment comme... C'est le contraire de Freud, il disait la féminité, ce continent noir. Pour moi, la masculinité, c'était un peu le continent noir. Donc... j'avais envie quand même d'aller voir un peu ce que c'était. Et au-delà de l'apparence. Parce que bon, les apparences, c'était ce qu'on connaît tous. Enfin, c'est le machisme, la masculinité qui se donne à voir, qui se revendique, etc. Le patriarcat. Mais bon, j'avais quand même rencontré déjà pas mal d'hommes, que ce soit des amis ou même chez mon père, enfin des... Je sens qu'il y avait vraiment une autre parole possible, une parole intime, une parole complètement différente. Alors maintenant, on dit peut-être féminine, mais pour moi, non. C'est une parole à soi, quoi. C'est tout personnel. Et c'est cette parole-là que je suis allée chercher. Voilà.
Est-ce que tu as eu des difficultés quand tu as commencé à enclencher cette idée de documentaire? Est-ce qu'il y a eu des obstacles qui se sont dressés devant toi ou comment? Comment ça
C'est évidemment le problème. La question, c'était le choix des hommes. C'est-à-dire qu'ils acceptent. Parce qu'il fallait vraiment qu'ils aient un peu d'une certaine façon de confiance, même une grande confiance, pour accepter de se livrer. Parce que les entretiens, là, dans le film, je suis en tout sept personnes, sept hommes. Il doit rester, 10 minutes, même pas chacun, de parole, même pas. Mais on avait filmé beaucoup, beaucoup, même si c'était en Super 16, hein, pas en 16. On filmait quand même un magasin facile, quoi. Voilà, donc, j'avais adopté comme principe d'être à une place un peu de psychanalyste. Enfin, je me considérais pas du tout comme ça, mais de ne pas poser de questions. C'est-à-dire de relancer à partir de ce qui arrivait. Voilà, donc... Il y avait beaucoup de oui, pourquoi, comment, des choses comme ça. Et puis je reprenais les derniers mots, la dernière phrase, et ça marchait très bien. ça marchait vraiment très bien. Et je pense que on se connaissait pas tout. Enfin, il y en a certains que je connaissais un peu. C'était des amis. Enfin, voilà. C'était un cercle d'amis qui s'était élargi. J'avais expliqué le projet du film à des amis qui m'avaient dit « Ouais, bah écoute, peut-être, tu devras aller voir un tel. Voilà, tu lui en parles, on verra bien, tout ça. » Et donc, comme ça, d'amis en amis, j'avais fini par trouver ces hommes que ça intéressait, quoi, qui avaient envie de parler.
Mais du coup, tu es arrivé, comme tu dis, avec du 16 mm. Alors, je t'avoue que je ne sais pas ce que c'est que du 16 mm plus.
Oui, c'est du super. Parce que on appelait ça Super 16. Je ne pourrais pas te dire aujourd'hui quelle est la différence technique, je ne me rappelle pas.
Mais du coup, c'est des bobines qui ont une durée limitée. Mmh. Et tu dis question de budget, etc. Donc, est-ce que tu es arrivé très préparé pour être sûr d'avoir le matériau qui arrive au moment où tu étais là, tu vois ce que je veux dire, où tu tournes?
Ça dépend sur quelle séquence, parce que si tu veux, le film il est construit avec différentes séquences. Il y a des séquences de parole et il y a des séquences où en fait j'ai filmé des scènes, comment dire, symboliques ou typiques, enfin, de ce qu'on appelle la masculinité, c'est-à-dire la chasse, la moto, enfin, toutes ces images stéréotypées, disons. Mmh. Hein.
Non, là, je veux dire plutôt justement les scènes de parole.
Les scènes de parole, écoute, c'était pas très compliqué.
D'accord.
Parce que je savais exactement ce que je voulais et surtout la façon d'obtenir les choses, c'était d'être dans une certaine posture intérieure. Mmh. C'est-à-dire à partir du moment où j'étais en face d'eux et où j'étais comme j'étais, et ben ça pouvait pas tellement produire autre chose, quoi. Voilà. Donc c'était une question après de confiance, de réciproque, mais j'étais en phase avec eux. Mmh. J'étais en phase et le seul avec qui il y a eu quelques problèmes, c'était le... Comment il s'appelait déjà, son prénom, Bernard, qui était celui qui est à la moustache avec sa petite fille et qui s'est senti agressé parce que je sentais bien qu'il avait une gêne profonde avec sa masculinité, quoi, voilà. Je sais pas de quel ordre, hein, j'ai pas voulu fouiller ça de façon... Mais j'ai senti. Donc je l'ai un peu poussé là-dessus. Et ça, il n'a pas aimé du tout. Mm-hmm. Donc il y avait un truc douloureux. Mais je n'ai pas voulu aller plus loin, quoi. Voilà. Et donc ça, avec lui, j'ai senti qu'il y avait... Et je sais qu'après, le film l'a vraiment bouleversé. Mm-hmm. Tu vois, de cette image de lui dans le film, ça l'a bouleversé.
D'accord.
C'est le seul de ces hommes où je me suis dit, peut-être j'aurais pas dû le filmer.
D'accord.
Ouais. Ah oui.
Alors que c'est celui dont on se souvient, dont on a le plus parlé entre nous.
C'est pas vrai.
Si.
Ouais. Oui. Mais on va l'entendre, si je dis pas de bêtises. Tout à l'heure, on a prévu un extrait.
Mais sûrement lui, parce qu'il est justement un peu différent des autres, un peu compliqué.
Il dit qu'il a pas de place, qu'il a rien à dire, parce qu'il considère qu'il n'est pas intéressant.
Mais parce que c'est vrai qu'il dit, dès le départ, en fait, il parle de sa place sociale. Ma place en tant qu'homme, qu'est-ce que c'est une place en tant qu'homme? Ma place sociale, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin bon, et je m'étais dit, ça va pas être facile parce qu'il se raccroche à ça, quoi. Mmh. Il se raccroche vraiment à sa place sociale. Mmh. Alors il dit en tant que père, en tant que... Bon, par ailleurs, c'était un militant. Donc en tant que militant, en tant que... Il était quoi? Il était cadre dans l'administration. Enfin bon, tout ça lui donnait les... Voilà. Mais il avait peur d'aller plus loin, quoi. Mmh.
Alors, on y reviendra. On va reparler longuement de vos films. Et on voulait présenter maintenant le film de Stéphane. Assez rapidement, hein, Stéphane, tu as fait des études de droit, un passage dans l'humanitaire, puis les ateliers Varan, donc c'est très résumé. Et tu as réalisé ensuite une multitude de films documentaires pour la télévision et le cinéma. Qui traite essentiellement de sujets sociaux, par exemple autour de la pauvreté et de l'emprisonnement. Donc c'est vraiment un résumé très rapide. J'espère que tu t'y retrouves à peu près.
Oui.
Oh, à peu près. Le film Quelque chose des hommes explore la relation des hommes à la paternité et à la filiation. Tu filmes des séances de prise de vue entre père et fils qui, torse nu, se dévoilent devant l'objectif du photographe Grégoire Korganov, dans le cadre d'un projet d'exposition photographique. Par leurs discussions et leurs gestes, les participants à ce projet lèvent un peu le voile sur leur relation entre eux, père et fils, donc, sur aussi un côté assez pudique ou une complicité. Donc on voit leur relation en fait apparaître un petit peu à l'image. Donc on va écouter un extrait aussi et ensuite on pourra parler un petit peu plus longuement du film.
Alors tu sais, moi j'ai une petite particularité, Stan, c'est que je fais des photos de pères avec leurs fils, tu sais ça ou pas?
Ben maintenant oui.
D'accord. Et j'en fais depuis longtemps. Et j'ai l'impression que là, on est en train de commencer une petite série de photos père et fils. J'ai l'impression que tu t'es fait un peu arnaquer par ton père quand même. Enfin, je ne veux pas le dire, hein. Je ne sais pas ce que vous aviez prévu, si vous aviez prévu d'aller au Cinoche ou quoi, et j'ai l'impression qu'il avait un peu calculé son coup.
Et non, j'ai juste rien dit.
Ouais. Et en plus, cette série, elle a une petite particularité.
Je viens de comprendre là, ok. Ouais. Écoute bien.
Elle a une petite particularité. C'est que cette série père et fils, elle n'est pas en chemise, elle est torse nu.
Tu me l'aurais dit, j'aurais fait mes abdos ce matin.
Alors,
je t'ai bien vu. Hein.
Ouais. Ouais. Ça va, il est de bonne composition, ton fils. Hein. Hop, regardez, et là, il y a juste, ça se touche un tout petit peu. Et voilà, comme ça. Hop. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire ensemble ?
Glander. Moi, c'est quand je partage un repas avec toi et que tu kiffes.
Ouais.
Parce que je cuisine, ça se voit.
Ça se voit aussi.
Ouais, moi, ce qui me plaît, c'est quand tu te régales d'un bon plat que je t'ai préparé. Et que je sais que ça t'a fait plaisir. Tu vois, il y a un truc... c'est mon petit côté mère juive. Ou papa poule.
Regardez-moi.
Amanis.
Voilà, donc on a entendu le photographe Grégoire Korganov et donc un père et son fils. Donc on connaît le nom du fils, Stan. Ça présente un petit peu voilà, le dispositif. Comment est-ce que tu t'es intégré dans ce dispositif et comment ce film s'inscrit dans ton parcours ?
Alors, je me suis intégrée dans le dispositif un peu par effraction. J'ai un peu forcé la porte parce que Grégoire me racontait ses séances photos entre père et fils. Lui, il y allait pour parler probablement de sa relation à son père, à son fils. Et en fait, moi, ce qu'il me racontait de ce qui s'y jouait me donnait envie vraiment d'être là, d'autant plus que... les premières photos, parce que Grégoire était mon mari à l'époque, se passaient chez moi et je devais évacuer les lieux, aller m'enfermer dans la cuisine. Et donc j'avais d'autant plus envie d'assister à ces photos. Donc voilà, je crois que ça a été ce désir-là de saisir ce que raconte le titre, quoi, quelque chose des hommes. En profitant de cette place un peu privilégiée de petites souris en assistant à ces séances photos.
Et du coup, c'est par rapport aux autres films que tu as fait avant et après, c'est un dispositif assez particulier.
Ouais, alors c'est assez particulier parce que c'est un dispositif qui existe en dehors de moi. Mm-hmm. Donc là, ça pose vraiment une question de ma place, de où je me mets, de quelle donc tout ça, ça a été vraiment des questions importantes pour filmer, parce qu'il fallait pas que je sois à la place de Grégoire. Donc Grégoire fait partie aussi des personnages masculins que je filme. C'est aussi un film probablement qui a un peu échappé, c'est-à-dire que peut-être que je savais pas exactement complètement ce que je faisais. Enfin, en tout cas, il y avait une part comme ça qui était un peu... ce qui est un peu le film, c'est-à-dire que c'est beaucoup sur le geste, le regard. Enfin, c'est des petites choses, quoi. C'est un film un peu impressionniste, de détails, qui raconte quelque chose qui passe peut-être moins par les mots que d'autres films. Et puis, c'était un court-métrage, hein. Et j'ai fait ça dans un cadre assez libre, puisque c'était pour les courts-métrages de France 3. Donc, du coup, il n'y avait vraiment aucune contrainte. Mmh. Et c'est aussi un film qui a été probablement déterminé par l'accident du début, parce qu'en fait, Grégoire avait très peur de ma venue dans son intimité, en fait, puisqu'il y avait quelque chose évidemment de très intime qui se jouait, et que je perturbe, que... et donc j'y suis allée toute seule sans un gesson la première fois. Et bon, sans un gesson, avec des mecs torse nu, donc pas de possibilité de mettre des haches. Enfin bon, bref, j'ai mis mon micro. En plus, c'était une très grande salle à la MC 93, donc j'ai mis mon micro à 2 km là. De... Enfin bon, donc j'ai tout pané, en fait. Enfin, pas l'image, mais le son, j'avais pas de son. Et on n'arrivait pas à trouver de l'argent sur ce film, et donc on a décidé de faire un petit montage des images faites, et donc c'est parti sur ces images où il n'y avait pas le son, qui sont le début du film d'ailleurs, qui sont enfin, où il y avait des, voilà, et du coup ça m'a, je pense, entraîné vers quelque chose de plus sensuel, de moins sur la parole, peut-être que si j'avais pas eu cet accident, comme quoi les accidents sont parfois une chance.
Et ben, on va présenter maintenant le film de Maywa.
Bonjour. Bonjour.
Donc, t'as le temps d'arriver. Alors, pour ton film, donc, May, tu es une artiste documentariste française et vietnamienne, d'origine vietnamienne. En 2019, tu réalises et autoproduis ton premier long métrage documentaire qui s'appelle Les Rivières.
Oui.
C'est une quête intime et universelle sur la lignée des femmes de ta famille et sur les enjeux transgénérationnels de la mémoire familiale.
Oui.
En 2021, tu réalises Make Me a Man, qui est donc ton deuxième long métrage. C'est un essai filmique que tu co-réalises avec Jerry Hyde, qui est un thérapeute basé à Londres. Et pour réaliser ce film, tu pénètres au cœur du processus thérapeutique d'hommes qui ont choisi de vivre une vie de réflexion, d'évolution et de soutien. Et ça, tu fais ça pendant 3 ans. Voilà. Tous font partie du cercle de Jerry Hyde et depuis très longtemps.
Ouais.
En alternance avec des échanges profondément intimes, tu filmes Jerry et quelques-uns des membres de ce groupe en pèlerinage dans la Somme, sur les sites de commémoration de la Première Guerre mondiale. Et à travers ces hommes, le film explore les thèmes universels comme le sexe, la violence, les relations et ce qu'est être un être humain au XXIe siècle. Mmh. On va écouter un extrait.
Mmh.
Voilà, un premier extrait. Donc je vais un peu le présenter parce que comme c'est en anglais,
oui,
ça donne quelques pistes. Donc je le résume brièvement, on est dans les 10 premières minutes du film, face caméra, des hommes disent ce que cela veut dire pour eux d'être un homme. Le dernier avoue qu'il lui a fallu attendre 40 ans avant de s'autoriser à être lui-même. Et que, je le cite, être un homme, à ses yeux, c'est être réellement capable d'avoir suffisamment de connaissances de soi pour faire quelque chose qui a du sens, de la substance et de la valeur. Mmh. On est ensuite en voiture, tu filmes Jerry et quelques hommes sur la route et on entend ta voix qui explique ton désir de film. Mmh. Voilà.
As a sensitivity, but also as a strength that he knows his own strength, and chooses wisely when to use it, rather than is promiscuous with it, randomly throws it around.
A lot of my life, my actions, and the decisions I take, have been determined by what I think I ought to do, rather than by what I think I want to do. And it's probably taken me 30 or 40 years to get to the point where I can start to really think about what do I want to do? What's actually coming up from inside me that is authentic? So maybe that's what being a man means to me. Actually being able to have enough self-knowledge to do something that means something, that has substance and value to me.
To the west was the sunken road area, and today south of that is the Newfoundland.
When I met Jerry, I was so sure his men's group were meant to work on their masculinity. You know what it means to be a man, in quite a macho way. And as I've been working with women for such a long time, I was longing to know what was happening on the other side. And what I found is that there's no other side. We have opposed men to women, and I've been missing them.
Plug it back in.
tu seras viril.
Donc voilà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire la phrase que tu nous traduis, nous commenter la phrase?
Oui, alors si je me souviens bien, c'était voilà, quand j'ai rencontré Jerry, je savais pas que les groupes de paroles d'hommes existaient. J'avais envie d'être une petite souris, justement, comme Stéphane, pour voir ce qui s'y passait, parce que moi qui ai travaillé depuis si longtemps avec les femmes, sur un propos féministe, voilà, sur ma lignée de femmes et avec d'autres femmes, j'avais envie de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Et en écoutant ces hommes, je me rends compte qu'il n'y a pas d'autre côté. Que, en fait, lorsqu'on est dans cet art de l'introspection, on commence à aller toucher des choses qui ne sont pas du tout genrées et qui sont voilà, très authentiques. Et le premier homme qu'on entend, quand il finit par examiner qu'est-ce que ça veut dire être un homme, finalement il nous donne une définition qui est pas genrée du tout et qui est plutôt celle de c'est quoi être un adulte de genre masculin quoi. Mais c'est pas très genré en fait. Et donc dans le dispositif, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y avait quelque chose où justement ces hommes devaient se filmer entre eux dans ces interviews sur fond noir, où Jerry, qui est le thérapeute, leur pose des questions qui sont des questions très très thérapie en fait, rapport à la mère, rapport au père, rapport à l'autre sexe, rapport au sexe, à l'argent, etc. Et eux, en fait, ça fait 5, 15, 10, 25 ans qu'ils réfléchissent à ces questions pour eux-mêmes et qu'ils cheminent dans des groupes de parole. Et finalement, la question à laquelle ils ne sont pas du tout confrontés et qui leur pose le plus de problèmes, et c'est celle qui ouvre le film, c'est qu'est-ce que ça veut dire être un homme ? Parce qu'en fait, ils ne se posent pas du tout ces questions-là. Ouais. Donc ça m'a vraiment surprise parce que j'étais vraiment persuadée qu'on allait réunir des hommes pour réfléchir à leur masculinité. Alors, ça veut dire quoi être un homme ? Est-ce qu'il faut être protecteur? Est-ce qu'il faut être dans un rôle nourricier? Est-ce qu'il faut l'idée? Est-ce qu'il faut être un alpha, etc. Et en fait, c'est pas du tout, du tout les questions que j'y se pose. C'est, je comprends rien à mon enfant. Je m'engueule avec mon partenaire ou ma partenaire. J'arrive pas à avoir de relations solides. J'ai des problèmes d'addiction. Qui sont en fait des questions qui peuvent être prises dans les taux des assignations de genre, mais qui au final sont des questionnements humains, voilà, oui. Non genrés. Et moi, du coup, j'ai appris plein de choses sur moi en écoutant ces hommes dans mon histoire d'être humain et de femme.
D'enfance,
etc. Exactement.
Et comment le film a démarré ? Enfin, comment tu as rencontré Thierry ? Enfin,
oui. Alors, j'avais rencontré Jerry lors d'une présentation d'un de ses livres. On est tombés amoureux. Et puis, en fait, on s'est rendu compte... Moi, j'avais un blog et je filmais déjà. Je faisais des portraits sensibles, mais des portraits vidéo. Et lui, en tant que thérapeute, en fait, on avait la même passion de faire en sorte que les gens puissent raconter leurs histoires, qu'ils aient un espace où ils peuvent se raconter. Et où cet intime va pouvoir s'explorer, se développer et se partager. Et donc, en fait... comme je disais, quand j'ai appris qu'il avait des groupes de parole d'hommes, moi je rêvais que d'une chose, c'était de rentrer dans ces groupes et d'entendre ce qu'il s'y disait, quoi. Et du coup, le stratagème, c'était de lui proposer de faire un film. Mais en fait, c'était un stratagème pour intégrer ces cercles de parole. Et il m'a dit, non, en fait, moi je suis thérapeute. Et l'intégrité de ce travail, comme pour vous, en fait, ils avaient peur que une caméra, une personne inconnue et en plus une femme viennent totalement perturber leur travail, ce qui aurait été le cas en fait. Et ensuite, MeToo est arrivé. Et quand MeToo est arrivé, lui qui avait beaucoup travaillé en violence domestique avec des associations féministes et moi qui étais très très investie de l'autre côté, plutôt du côté de femmes victimes, on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose à explorer dans ces groupes de parole et dans ce qui était en train de se passer et cette prise de conscience de... en fait, c'est aussi la culture du genre qui nous amène à cette situation catastrophique. Et donc, littéralement, à la fin d'un de ces groupes de parole, donc eux, ils se réunissent une fois toutes les deux semaines. Il a quatre groupes qui se réunissent une fois toutes les deux semaines, 3 heures. Ils sont 8 par groupe. Et voilà, le groupe le plus ancien a 20 ans. Donc ce sont des gens
qui se connaissent très très bien,
qui se connaissent eux-mêmes très très bien, qui savent travailler en groupe. Enfin, ils ont développé dans ces cercles des capacités en fait aussi bien d'introspection que d'empathie, que de soutien, etc., qui sont très très rares en fait, et qui sont encore plus rares dans une expérience masculine. Donc oui, il finit un de ces groupes et puis il se dit mais en fait toi t'es photographe. Donc, tu as un studio et tu pourrais tenir une caméra. Toi, tu es mixeur son. Toi, tu es étalonneur. Toi, tu es réalisateur. En fait, on a une équipe in-house qui est là samedi. Ouais. Et donc, bah, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Et puis, et ils commencent à se filmer comme ça.
Entre eux.
Et toutes les interviews qu'on voit, et on m'a dit souvent en séance de rencontres, de questions-réponses, on m'a souvent dit « Ah oh là là, on voit que c'est une femme qui filme, c'est hyper empathique, c'est une caméra vraiment qui a les coups, qui est... » Bah, pas du tout, c'est eux qui se sont filmés entre eux. Enfin, Jerry ne filme pas parce que lui, il pose les questions, donc il garde sa position de thérapeute. Mais c'est eux qui se filment et c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble de cette manière-là depuis 5, 10, 15, 25 ans qu'ils sont capables de se livrer. Et en fait, les interviews sont très courtes. Elles durent 30 minutes. Et donc, on avait un corpus d'une douzaine d'interviews. Et en fait, c'est vraiment au bout de 3 mois de processus qu'ils se sont dit « Mais en fait, on a besoin d'un réalisateur. » qui soit extérieur, et en fait, on a besoin d'une femme féministe. Parce que nous, on ne veut pas du tout être dans un truc de « not all men », on ne veut pas du tout être dans une défiance de ce qui est en train de se passer, on veut embrasser ce truc et apporter notre pierre, comme on peut, de là où on est, avec qui on est, quoi. Donc, c'est là que je suis intervenue. Du coup, j'ai mis le pied dans la porte. Mais à leur demande. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. Il y avait d'abord un désir tient et ensuite ça s'est
voilà, après c'était eux et puis après envie. Exactement. D'accord. Exactement. Mais quand là pour le coup, c'est moi qui ai filmé dans la Somme. Mm-hmm. Et ben là, enfin ça, les gens me le retournent pas, donc c'est réussi, mais ils ne parlent pas.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Il ne parle pas. On est totalement dans le factuel, dans l'indicible, dans le non-verbal. Ouais. On sent qu'il y a une énorme émotion chez eux, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a cette marche et ce pèlerinage et ces hommes qui déclament des poèmes au-dessus de tombes de soldats inconnus et tout ce truc assez romantique anglais. Mais ils ne me parlent jamais. Et on a trouvé ça incroyable parce que je me rappelle qu'on avait fait ça pendant un week-end et à un moment j'étais partie me coucher et là ils ont commencé à se parler et Jerry était là mais vous êtes censé parler devant la caméra, on a une caméraman, enfin, et puis ils disaient là c'est pas possible. On ne peut pas faire ça.
C'était pas installé non plus. En fait.
C'était pas installé. Et puis, je pense que pour eux, ils avaient vraiment rattaché. Comment dire? Ils avaient rattaché cette possibilité de s'exprimer intimement parce qu'ils étaient dans ce dispositif, dans ces cercles, avec des règles qui sont très très précises et avec cette écoute et le fait qu'ils se connaissent en fait, ou qu'ils sachent que même s'ils appartiennent pas au même groupe et qu'ils s'étaient jamais rencontrés parfois, ils savent que c'est Jerry qui mène ces groupes et que chacun est habitué et qu'il y aura pas de jugement et que donc ils ont besoin d'énormément de cadre pour développer de l'intime, développer de la vulnérabilité et ça c'est en fait c'est impossible avec une personne extérieure et encore plus avec une femme, non pas parce que enfin si en fait c'est des reliquats sexistes en fait de programmation où on doit se comporter d'une certaine manière devant une femme et que c'est très très lent en fait, le processus est lent pour aller déconstruire ça. Et aujourd'hui, certains de ces hommes, je les connais très très bien, on est devenus proches, et c'est possible aujourd'hui de se raconter nos vies et d'être vraiment dans une confiance, mais en fait, ça se construit petit à petit. Et on trouvait que ce non-verbal était aussi très puissant et très très beau aussi, donc voilà.
Alors, on va faire une petite pause musicale, on va écouter Kid de Edith Depreto, et on se retrouve juste après.
Génial.
Mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent groguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à fer et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Vous êtes toujours sur la Radio Libertaire 89.4 FM, sur les ondes et en ligne. La radio sans Dieu, ni maître, ni publicité dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet. Avec nous aujourd'hui dans le studio, nous avons Claudine Boris avec son film Juliette du côté des hommes, Stéphane Mercurio avec son film Quelque chose des hommes, et Mei Hua avec son film Make Me a Man. Après cette introduction de vos films, on va continuer avec une première question générale. Comment vous avez abordé les thèmes en lien avec la masculinité et sur le fait d'être un homme? Comment vous avez choisi les thèmes à l'intérieur de ce grand sujet qui est la masculinité? Et Stéphane, par rapport à ça, je vais te demander... Comment t'as discuté des questions que t'allais poser avec le photographe, avec Grégoire? Comment vous en avez discuté? Et comment la sélection des couples, si on peut dire père-enfant, s'est fait?
Alors, Grégoire, lui, il travaillait la séance photo de façon à ce que les gens se sentent un peu à l'aise. Donc, il a un peu... tenu compte du tournage pour rajouter un peu des questions ou pour qu'il parle un peu de ce rapport-là. Les gens étaient... Alors, ça dépendait des séances, en fait. Les gens n'étaient pas forcément choisis parce qu'il avait des résidences. Et donc, il y avait un appel à des gens. Et les gens venaient comme ça. Donc, il y a eu un premier tournage qui était à la MC 93. Donc là, c'était soit des gens en lien avec le théâtre, soit des habitants de Bobigny. Ensuite, il y a eu un tournage très rural. Donc là, c'était une parution dans le journal. Donc, c'était assez marrant, enfin, parce que les comportements, enfin, selon, en fait, c'était les comportements générationnels qui n'étaient pas les mêmes. Les hommes plus âgés avaient vraiment du mal à venir sur cette photo. Voilà, les quarantenaires avec leurs enfants, tout ça, c'était simple. Mais le père qui avait 70, 80, c'était vraiment, il le faisait en général pour faire plaisir à son fils. Et puis, en fait, le dernier tournage, parce que là, il fallait qu'on termine. Et on n'avait pas de... Il n'y avait pas de résidence en vue. Parce que ça s'est beaucoup étalé. Parce que comme je n'arrivais pas à trouver de sous, donc ça s'est étalé sur des années, ce tournage.
Ah oui.
Ouais. Et le dernier tournage, donc j'ai convoqué un peu plus des gens que je connaissais, moi. Voilà. Donc c'est avec des idées derrière la tête, mais qui ne sont pas avérées être celles que j'imaginais, en fait. Forcément, les gens sont partis sur d'autres choses, c'est voilà, comme toujours, hein, ça échappe, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait un peu chiant de faire des choses si vous savez d'avance ce que les gens vont nous raconter, donc voilà.
Et est-ce que tu préparais avec le photographe les questions, est-ce que vous en parliez, est-ce que tu essayais de le...
Quand on savait, mais en fait on savait pas forcément.
Vous savez quoi, tu veux dire?
Quand on savait quelque chose de la vie des gens.
Ah, oui.
Mais parfois, on ne savait rien, en fait. Hein. Notamment la résidence à la campagne. Là, les gens, ils arrivaient. On les avait eus... Enfin, ils les avaient eus vite fait au téléphone. Et en fait, c'était très particulier comme tournage. Parce que les gens qui venaient remerciaient pour le moment qu'ils avaient passé ensemble, les pères et les fils. Et en fait... Et la photo, et encore plus le tournage, était totalement secondaire. En fait, c'est-à-dire qu'ils avaient une heure de bulle entre eux, où se jouaient beaucoup de choses, en fait, hein, de l'ordre de pouvoir se dire, ou de pouvoir réparer, ou bref, il y avait plein de choses comme ça, sous-jacentes, qui étaient là. Et donc, l'important, c'était ce moment-là, tous les deux. C'est d'ailleurs, je crois, le seul tournage de ma vie où certains ne me reconnaissaient pas. C'est-à-dire que normalement, on reconnaît à peu près la réalisatrice du film. Hein. Après, quand je les voyais, ils ne savaient pas forcément. Donc, on préparait un peu selon les gens, mais pas... voilà.
Et toi, qu'est-ce qui t'intéressait dans cette question de la masculinité? Qu'est-ce que tu avais envie, toi, de creuser?
Je ne suis pas partie avec tant de... d'arrière-pensée que ça, en fait. J'allais un peu à la découverte avec l'envie de comprendre, je crois. Et finalement, bon, alors au fur et à mesure des tournages, évidemment, il y avait des choses qui apparaissaient, qui se sont confirmées. Voilà, et la difficulté autour de la question de la tendresse, de pouvoir dire je t'aime, de se toucher, de tout ça, est apparu en fait assez fortement tout au long du tournage. Mais il y avait aussi d'autres petites choses qui étaient de l'ordre de la ressemblance. C'était très, très déconcertant, apparemment, la façon dont les gestes sont les mêmes. Mais en tout cas, effectivement, petit à petit, en fait, c'est révélé à quel point les hommes étaient pris dans une histoire, en tout cas générationnelle, qu'on voyait. C'est-à-dire que vraiment, c'était les fils de ces pères qui étaient des pères qui revenaient du travail, qui ramenaient l'argent dans la maison, mais qui n'avaient pas d'autres fonctions vis-à-vis des enfants. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, très ancré, qui n'avaient jamais dit « je t'aime » à leurs enfants. Donc, c'était ces fils-là, souvent, qui avaient tant bien que mal essayé de faire un peu mieux, mais pas toujours, hein, parce qu'encore pris dans cette éducation, et dont les fils, eux, par contre, étaient évidemment complètement sur autre chose, parce que c'était une nouvelle génération, et eux étaient beaucoup plus...
Plus ouvert.
Après aussi, ça dépendait des âges. Hein. C'est-à-dire que les ados, c'est pas simple. Voilà, les petits, c'est facile. Les ados, enfin, ça dépendait des âges, de la complicité. Il y avait des choses qui se réglaient aussi, hein, ou qui se réglaient pas, mais qui étaient là, qui étaient présents.
Ok. Bah, on va lancer tout de suite un extrait
qui pour étayer un peu, voilà, on va écouter une discussion entre un père et son fils dans un des couples, comme on dit, qui était dans ton documentaire.
Tu veux dire que ton père, il a tatoué ton prénom sur le poignet?
Ouais. Non, il a juste fait le A et le F.
Le A et le F? Mm. C'est bizarre, ça. Pourquoi il a fait ça, tu crois?
J'ai voulu le mettre là pour symboliser le père.
Ah, faut que vous m'en disiez un peu plus là.
C'est que j'ai pas connu mon père. Mon père est mort, j'avais 2 ans. Et ma mère a toujours dit que mon père avait des grosses mains, enfin le symbole vraiment. Et donc pour moi, c'est resté le symbole de l'autorité, de la force paternelle. La main a toujours eu une grande importance pour moi.
C'est pour ça que vous vouliez faire cette photo ?
Oui, aussi.
Claudine, nous allons parler maintenant de ton film. Et pareil, comme pour Stéphane, on voudrait savoir quelle a été la collaboration avec les hommes que tu as filmés. Alors toi, tu sembles assez proche des hommes, tu leur parles de façon assez intime, donc tu as expliqué un peu le dispositif psychanalytique, mais est-ce qu'avec eux, tu as discuté des thématiques que vous alliez aborder, et notamment aussi des lieux où tu allais les filmer? Par exemple, je pense à celui qui présente sa bibliothèque, ou alors les scènes de chasse, est-ce qu'elles t'ont été inspirées par un des personnages, ou celui qui danse également, est-ce que c'est lui qui a amené cette thématique? Comment t'as organisé?
Tous les entretiens, en fait, étaient chez eux.
Ouais.
C'était chez eux, c'était dans le lieu qu'ils choisissaient chez eux. Celui qui voulait que ce soit dans sa chambre, celui qui voulait que ce soit dans sa cuisine, ou celui dans sa... C'est pas sa bibliothèque, hein, c'est en fait... Il y a deux lieux, il y a la salle à manger et la bibliothèque. Il y a eu 2 entretiens, et donc il a choisi les endroits qu'il aimait le plus. La bibliothèque où il y avait les livres qu'il aimait, et puis la toute petite statuette de sa mère, qui le voilà, et puis la salle à manger où il était avec sa fille, et avec sa famille, enfin voilà. Et bon, pour ce qui est de Bernard, dont je parlais tout à l'heure, Bernard, bah, c'était avec sa fille, hein, et c'était dans la cuisine où il fait à manger à sa fille, et ensuite quand il la couche et qu'il lui raconte une histoire. C'est-à-dire c'était toujours eux qui choisissaient chez eux l'endroit où ils voulaient qu'on fasse l'entretien. Et ensuite, c'est en partie eux qui inspiraient le fait qu'ensuite j'ai été filmée des scènes collectives. Alors évidemment, Gérard, enfin qui est le danseur de tango, le danseur de tango, j'ai cherché un endroit qui s'appelait le tango, voilà, et où les couples dansent le tango d'une façon que j'adore. Enfin, mais c'est des choses qui continuent, ça. Hein. Il y a encore des tas d'endroits à Paris où il y a des gens de ce genre, des couples enfin, qui se rencontrent que là, enfin, qui viennent juste uniquement pour danser ensemble et se frotter, se toucher. C'est très très beau. Et donc voilà, Gérard, là, c'est lui vraiment qui m'a inspiré ce lieu. Celui qui parle de la chasse aussi, mais il n'y est pas, lui, à la chasse.
Non,
c'est une chasse
que tu as filmée.
La chasse, on l'a trouvée grâce à Monsigny, qui était le chef opérateur et qui avait un frère qui adorait chasser. Enfin, c'est toujours très, très souvent comme ça que ça se passe, les choses. Enfin, sauf quand on va dans un lieu précis en documentaire où on repère et puis on sait pourquoi on est là et on va filmer les autres pendant un certain temps, etc. Mais quand c'est des choses plus personnelles comme ça, parce que c'était quand même... c'était né d'un désir très, très personnel, quand même, ce film. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup... on va chercher quand même des gens avec qui on se sent en harmonie.
Oui, bien
on va
sûr,
pas
ouais.
chercher uniquement à documenter.
Oui.
C'est pas tellement l'histoire de documenter. C'est vraiment l'histoire de trouver des paroles possibles, des échanges possibles, des confiances possibles. La confiance était vraiment au centre de la recherche. Et effectivement, j'avais pas l'idée de thématique. Ah non, j'avais absolument pas de thématique.
Ah oui, tu t'étais pas dit un danseur, un chasseur.
Ah non, non, non.
T'avais pas l'air. Comme on peut nous demander des fois dans les dossiers de documentaire d'avoir
du feeling. Ah oui, du feeling. C'est-à-dire les rencontres, j'en avais vu d'autres, des hommes, hein, avec qui j'ai pas gardé le contact, et donc c'était le feeling, c'est-à-dire d'un seul coup j'étais devant quelqu'un avec qui je sentais que c'était possible de parler, de vraiment parler,
et qui avait envie du film,
voilà,
aussi.
Et qui avait envie de parler,
ouais.
Et qui me faisait confiance, et avec qui c'était possible d'aller un peu loin. Voilà. Donc après, bon, alors il y a celui-là qui faisait ça, celui-là qui faisait ça, et on pouvait un peu, mais j'avais des choses qui, moi, il se trouve qu'il y avait le marathon de Paris à ce moment-là, et qu'il n'y avait que des hommes qui couraient à l'époque.
C'est vrai.
Donc j'ai filmé le marathon de Paris, enfin bon, des choses comme ça, puis des choses plus enfantines, comme les hommes qui font les trucs, c'était où ? C'était au Luxembourg, je crois, des trucs... télécommandé
avec les bateaux,
ça, là, avec des petits bateaux, comme des gamins.
Et c'est là où tu évoques ton père d'ailleurs aussi.
Oui, oui, oui. Ouais. Et donc ça, ça me plaisait parce que c'était vraiment le monde de l'enfance et que c'était des hommes assez âgés qui s'amusaient encore avec des petits bateaux. Et donc, mais parce que j'étais pas sûre qu'ils me parleraient vraiment de leur enfance et tout ça. Donc là, j'avais ça, je m'étais dit, je le veux, quoi. Je veux qu'il y ait cette dimension enfantine parce que moi, c'est ça qui m'intéressait. C'était l'idée qu'on avait tous été des enfants, qu'on avait tous été des bébés, aussi impuissants les uns que les autres, aussi vagissants, aussi complètement dépendants de la mère, du père, des autres et tout. Et j'avais envie qu'ils me parlent de cette place-là et qu'on en arrête un peu, qu'on arrête un peu cette histoire de rôle social qui nous avait été quand même transmis par des générations et des générations de patriarcat, quand même. Et de capitalisme, il faut bien le dire. Bien il y a les deux, quoi. Voilà. Donc, et c'est vrai que là, j'ai rencontré des hommes qui étaient aussi sur un plan, disons, peut-être plus politique, assez d'accord pour attaquer du côté capitalistique et patriarcal. Donc, ça crée une entente possible, quoi.
Oui.
Au-delà de la confiance et de l'intimité. Mais je n'ai jamais choisi d'avance. Les thématiques. Ah non. Oui. Non, c'était choisissez des gens.
Oui.
Voilà. Et du coup, tu dis, tu les laissais parler, mais tu leur posais peut-être une première question.
Ah, bien sûr.
Et quelle était cette première
question ? Oh, il n'y en avait pas une par. Non, c'était selon. Gérard, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, des trucs très bêtes que je ne gardais pas après, quoi. Voilà. Juste pour amorcer. Et puis, des fois, des silences. Et puis.
Et tu leur avais dit, c'est un film sur ce que c'est qu'être un homme.
Non, je leur avais dit, je voudrais faire un film sur ce que je ne sais pas des hommes. Et qu'ils me parlent d'eux d'une façon différente des discours.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'était l'idée de se décaler par rapport au discours masculin courant. Même pas officiel, mais courant. C'est-à-dire du rôle social et historique.
D'accord.
Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ? Est-ce que ça vous tente ? Est-ce que vous avez envie de sortir de ça ? Donc c'était des fois, mais je vois pas du tout de quoi tu me parles. Ça va très bien comme ça, merci, salut, bon, très bien. Et puis parfois tu dis, ah, ouais, ça m'intéresse. Alors aussi avec une part de séduction, hein. Parce que j'étais très jeune, très jolie, eux étaient pas mal. Enfin bon, il y avait ce jeu-là entre nous aussi, il faut pas le nier. Une espèce de complicité de gens qui aimaient bien l'autre sexe. Voilà. Mais parce que ça pouvait, je pensais pas pouvoir faire ça avec des hommes qui n'aimaient pas les femmes. Ça, je crois que j'aurais pas pu. Et j'aurais pas supporté. D'ailleurs, je leur serais rentrée dedans immédiatement.
On écoute un extrait ? Un court extrait, juste pour, pareil, étayer ton propos.
Je sais pas.
Je parle beaucoup des...
Non, mais...
Des femmes qui parlent entre elles, qui se racontent leurs histoires.
Je parle pas de moi.
Ils ne parlent jamais entre eux.
Mais je parle pas de moi et je pense peu à moi. Alors, bon, c'est pas comme ça, là.
Ça t'intéresse pas ?
Non, je dis pas ça, mais je vais pas pousser la réflexion sur moi-même, quoi.
Donc la parole te sert à autre chose qu'à parler de toi ?
Ouais, non, mais moi je vis au milieu des choses, au milieu des gens. Mais je vis pas tout seul. Moi, tout seul, c'est pas intéressant, quoi. Un être tout seul, il sert à rien. Enfin, il est paumé. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que je parle pas de moi tout seul. Alors, dans un rôle, peut-être. Peut-être.
Bon, rôle.
Le rôle de père, ou le rôle de, je sais pas, enfin.
Voilà, donc ce fameux extrait dont on parlait tout à l'heure, où on entend cet homme qui se situe son identité dans un rôle, en fait. Mmh, c'est vraiment intéressant.
Ben ça, je crois qu'il dit quelque chose de très vrai.
Ouais.
Je pense que beaucoup d'hommes, surtout à l'époque, puisque c'est quand même assez ancien maintenant, il n'y avait pas du tout de... Il y avait du féminisme, il y a toujours eu du féminisme, hein, mais un féminisme beaucoup moins reconnu qu'aujourd'hui. Enfin, ce n'était pas du tout quelque chose de souhaitable, quoi. Voilà. Mm-hmm. Et donc, lui, il était vraiment dans l'angoisse, quoi. L'angoisse de pas être à une place précise qui le faisait exister, et voilà. Mm-hmm. Et ça le terrifiait, l'idée que on puisse lui demander mais qui es-tu? Mm-hmm. Qui es-tu? Alors lui il dit bah je suis un père, je suis un militant, je suis avec les autres, c'est les autres qui voilà. Ça c'est typique, hein. Mm-hmm. C'est typique. Mais je pense que les femmes à l'époque étaient déjà beaucoup moins dans ce genre de choses. Mm-hmm. Qu'elles étaient beaucoup plus capables d'accepter de parler d'elles. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'était plus facile de faire un film au départ avec les femmes. Mm-hmm. Parce qu'elles demandaient que ça, de parler d'elles. Mm-hmm. Et non mais c'est vrai.
Bien sûr, bah oui.
Parole, c'était... attends.
Est-ce que aussi les hommes sont pas... Parce que moi j'ai eu affaire à ça aussi, les militants.
Oui.
Il faut qu'il reste sur le discours militant et aller au-delà pour parler de quelque chose d'intime, c'est vraiment un refus absolu.
Lui, c'était un militant. Oui, absolument. Mais tous les militants n'étaient pas comme ça, parce que le danseur tango, c'était un sacré militant, par ailleurs. Et lui... Pas peur, lui.
Il est fascinant d'ailleurs.
Hein. Oui. Il est, moi, je l'adore.
Ah, il est fascinant. Ouais. Il est extrêmement... Ouais, c'est vraiment... Très intéressant à écouter aussi. De ton côté,
oui.
Est-ce que tu as discuté des questions que Jerry allait poser aux hommes, ou est-ce qu'il a géré ça tout seul?
Moi, je suis arrivée après.
D'accord.
Dans le processus, comme je vous l'ai expliqué, ils ont commencé à se filmer. Et donc, moi, je me rappelle que Jerry m'en avait parlé quand même, mais pas dans la perspective de travailler ensemble, mais juste parce qu'on se partageait ce genre d'informations. Et moi, je trouvais ça... Ça m'intéressait pas du tout, quoi. Et il me disait non, mais moi j'ai envie d'avoir ce côté un peu matriciel, d'avoir les mêmes questions pour différentes personnes sur le même fond noir et de voir comment ils réagissent. Et donc oui, lui il avait cette envie de questions très très thérapie, ce qu'on explore en thérapie, quoi.
Oui. Mais d'ailleurs on a une collègue à l'émission qui dit ah mais je comprends pas, enfin elle ressentait, elle est thérapeute elle-même, ouais. Et du coup elle disait mais pourquoi on parle de la mère, enfin ça
n'a
elle vraiment elle a l'impression d'être en thérapie justement. Bah oui, ça l'a un peu mis mal à l'aise.
Mais je comprends. C'est marrant parce que c'est la deuxième fois que j'entends ça d'un thérapeute, en fait.
Ah ouais.
Ouais, qu'il a l'impression de travailler. Et moi, ça me dérange pas parce que, en fait, le film n'est pas fait pour les thérapeutes. Donc, en fait, oui. Chacun peut raisonner ou pas du tout être en rejet par rapport à ce qu'on propose parce que, boring, tu vois. Il y avait des. Oui, c'était une thérapeute anglaise qui disait j'ai l'impression d'aller au travail, j'ai pas envie de regarder ce film. Et je comprends, mais moi, ça me fascinait personnellement. Donc, c'est tout ce qui compte. Hein, mais...
Non, mais en fait, c'est marrant parce que c'est la seule d'entre nous à avoir eu cette réaction. Et je pense que c'est exactement parce que c'est son travail et qu'elle entend quelque chose qu'elle entend très fréquemment, d'aller interroger le rôle de la mère dans la construction de l'individu et notamment du garçon. Donc c'est aussi ça l'interrogeait beaucoup.
Je comprends.
Mais bon.
Je pense qu'il y a une méthodologie aussi qui m'a fascinée parce que par exemple poser la question de parle-moi de ta mère et la question d'après c'est dans quelle mesure cela a formé ta relation aux femmes? Mais moi, ça m'a fait exploser le cerveau, cette question. Parce que tout d'un coup, je dis, oui, évidemment.
En fait, bien sûr.
Et donc, en tout cas, c'est une question qu'on peut explorer. Et tout d'un coup, si on commence à tirer le fil, c'est tellement riche. Mmh. Moi, ça m'a amené aussi sur des questions d'introspection ça m'a plutôt intéressé. Mais je comprends qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, surtout s'ils ont l'impression d'être au taf.
Et comment, du coup, t'as réussi à suivre finalement ce désir que eux avaient et la trame que Jerry avait mettre toi ton dire ben non ça non peut-être ou ça oui, est-ce que t'as réussi à par rapport à toi aussi
tes questionnements bien sur sûr, la masculinité.
Bien sûr. Alors, il y a eu deux enjeux. Le premier, c'est qu'en fait, quand Jerry m'a montré les premiers rushs, encore une fois, c'était assez court. C'était chaque interview, c'était ouais une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, parce que ces hommes avaient une capacité à aller très très profondément, très vite. Il n'y avait pas d'exercice de chauffe ou de OK, on va passer une demi-heure à papoter et puis après ça, on va rentrer. Ça allait directement dans le beurre, quoi. Mais moi, ma première réaction, c'est que ça m'a mis dans une rage folle. J'ai entendu cette parole et j'étais là, mais pourquoi je réagis comme ça? J'étais furieuse. Et en fait, je me suis rendu compte que ça venait taper dans mes propres conceptions sexistes, en fait, que ce domaine de la vulnérabilité, de la parole intime, était un domaine féminin et qu'on n'allait pas en plus nous le prendre avec des hommes qui savent bien le faire aussi. Et donc, en fait, j'étais furieuse et je me suis dit, ah, mais tiens, bah, c'est le film que je dois faire parce que moi, il faut que je parcours aussi mes propres idées préconçues et que je déconstruise ce truc-là. Et donc, à partir du moment où voilà, j'ai mis le doigt sur le bouton et que je suis tombée amoureuse de ces hommes parce que j'avais tellement d'empathie pour eux. Il y en a un qui nous raconte que voilà, il a été la veille voir la police pour déposer plainte. J'en ai encore les poils là, qui se hérissent sur la tête et sur le bras. C'est incroyable en fait de pouvoir être témoin de ça, même si c'est par caméra interposée, puisque j'étais pas dans la salle quand ils l'ont fait, mais je savais qu'ils étaient allés voir la police, je savais que voilà, que c'était des moments de vulnérabilité incroyables, et qu'on allait pouvoir capter ça, lui rendre ça aussi, parce qu'en fait, par rapport à ce que tu disais sur et puis sur le moment où en fait les gens étaient heureux de se retrouver, d'avoir une heure pour eux, mais finalement la photo ou la réalisation du film est passée en second plan. Nous, il y avait ça, mais il y avait aussi le tout d'un coup ces hommes, ils se sont vus. Et bon, je sais pas si vous avez fait de la thérapie, mais quand on va voir son thérapeute, on se dit pas que on est au top de nous-mêmes pour que ça fasse une matière filmique, quoi. On se dit pas qu'il y a, on peut pas s'imaginer qu'il y ait de la beauté, qu'il y ait un quelconque intérêt. On a la morvonnée, on est défait, on sent nul, problématique, dysfonctionnel. Et en fait, qu'ils puissent se regarder de cette manière-là. Il y a plein de gens qui nous disaient, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont pas beaux, en fait. Enfin, ils sont humains. Enfin, ils ont pas été castés sur leur physique. Mais en fait, il y a quelque chose qui transparaît, qui les rend tellement beaux, que moi, ce sont des choses qui m'ont touchée. Et puis après, il y a eu un deuxième volet. C'est que, on avait fait un premier montage, à partir de ces premières interviews, qu'on a partagé, parce que moi, je viens du digital. Donc en fait, je partage beaucoup avec la communauté digitale et puis les gens, voilà, venaient aux projections et tout. Et puis en fait, mon frère me dit, mais pourquoi il y a que des hommes blancs ? Et deux mois après, George Floyd et tout notre questionnement tout d'un coup sur je vois pas les couleurs, etc. Moi, je suis une femme racisée. Et en fait, je me dis, bah c'est vrai. Et du coup, on a commencé à remonter le fil. Et puis, il y avait plusieurs choses. Il y avait une première chose qui était, ben, en fait, la thérapie, c'est une culture blanche. À plusieurs titres, ben, parce que déjà, c'est né plutôt en Europe, sur plutôt des classes bourgeoises au départ. Et puis aussi parce que nous, enfants d'immigrés, on sait à quel point nos parents nous ont tous dit la santé mentale n'existe pas, la thérapie c'est un truc de charlatan, et qu'en fait beaucoup de personnes racisées, alors moins maintenant, mais à l'époque, n'ont jamais été voir un thérapeute parce qu'en fait ça se faisait pas, c'était une sorte de manque de loyauté par rapport à nos parents et à leur culture. Et puis après, quand la question raciale est devenue un peu plus prégnante, les personnes racisées pouvaient aussi choisir un thérapeute racisé. Parce qu'ils se disaient, je suis plus en confiance, parce que si je parle d'un problème, un problème de racisme que j'ai vécu, etc., je ne vais pas être remis en question par rapport à ça. Et donc, du coup, ben, Jerry, qui est blanc, en fait, avait des personnes racisées, mais sûrement moins qu'une personne racisée. Bon, bref, ça faisait tout un mix où, en fait, effectivement, sa clientèle était assez blanche. Et puis après, il y a eu un troisième volet où on s'est rendu compte que, quand on a dit, bon, qui est la samedi,
bah, il y a que les blancs qui ont levé la main. Et parce que, en fait, les personnes racisées avaient intériorisé qu'on devait être discret, que notre histoire, elle compte pas tant que ça. Et en fait, on est allé les rechercher. Et donc, on leur a dit, en fait, votre histoire, elle compte. On veut l'avoir à l'écran. Elle compte dans ce dispositif et dans ce tournage. Et donc, on a retourné une deuxième fois avec... voilà. Donc, il y a eu tout ce truc-là d'être à la fois au plus intime avec des... clients, enfin Jerry et mon mari, ce sont ses clients. Il y a ce truc de, on va filmer des gens avec qui on connecte, qu'on connaît, on est sur l'intime, on peut pas aller, voilà. Et puis en même temps d'aller, de prendre conscience qu'en fait on va mettre ça dans un espace public pour tous les publics et qu'on a aussi une responsabilité par rapport à ça et qu'on peut pas juste dire non mais on est sympa. Donc non, il faut qu'on travaille un petit peu plus, quoi. Donc il y a eu ça.
D'accord. Alors on va faire une petite pause musicale et on revient juste après avoir écouté Diane Tell qui nous chante « Si j'étais un homme ».
Eh oui.
Si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que les peines pour les trop mauvais temps. Du monde, se ferait l'amour sur la plage en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou, et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme, mais quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Ta voix, je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme, mais quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut pour soi.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Toujours dans l'émission d'Adoc, on a déjà traité le sujet avec Claudine Boris, Stéphane Mercurio et Mehua. On voulait aborder un petit peu la place que vous avez prise chacune dans vos films, vos places de réalisatrice. L'usage ou non de la voix off, des questions hors champ, ou voir Stéphane, effectivement, le fait qu'on ne te voit ni ne t'entend pas. Bon, mais je voulais commencer par demander à Claudine, on t'entend, tu prends la parole en tout cas en disant « je », et tu intitules ton film « Juliette du côté des hommes ». Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi ?
La voix off ou Juliette ?
Les deux, mais pourquoi Juliette ? Oui, pourquoi Juliette, pas Claudine ?
Pour pas dire Claudine.
D'accord.
Et parce que j'aurais voulu m'appeler Juliette.
D'accord. Donc c'est un alter ego, une alter ego.
Oui, voilà. Quand j'étais plus jeune, gamine, je me faisais appeler Juliette par mes copines. Enfin bon, c'est toute une histoire à moi, ça. Mais donc c'est vraiment, j'ai pas pensé que c'était important et je me rends compte que quand même ça, voilà, ça veut dire quelque chose. Mais comme je l'ai pas explicité, bon ben voilà, ça reste.
Ça reste mystérieux. Voilà. Et du coup, la décision de mettre de prendre la parole.
Ah bah oui, ça c'était dès le départ. Oui, dès le départ, je pensais qu'il fallait qu'il y ait une voix féminine au milieu de tous ces hommes. Voilà, parce que quand même, moi, pour moi, ce qui était le plus important, c'était l'altérité. Mmh. Et donc, pour rendre compte vraiment de l'altérité, je voulais qu'il y ait une voix de femme, la mienne, quoi, voilà, et qu'ils disent le plus vraiment possible, le plus en vérité, cette question de l'altérité telle que moi, je la conçois. C'est-à-dire vraiment comme un autre... Pour moi, c'est un autre monde, quand même. Même si c'est l'être humain, ok. Mais quand même, je me suis retrouvée, enfin... Quand une petite fille se retrouve devant un petit garçon, c'est quand même pas la même chose. Mmh. Voilà. Moi, j'ai découvert un petit garçon pour la première fois avec une nue à l'école maternelle dans les toilettes pour enfants. Et j'étais complètement sidérée. Mmh. J'avais pas de frère, j'avais pas de cousin. Mon père était très pudique, donc j'avais jamais vu de
tête. Oui. Ah oui. Un choc, je comprends.
Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, un garçon. Ah ouais. Voilà, je crois que j'en étais encore parvenue. Ça m'a pris un certain temps et j'ai toujours gardé, j'ai trouvé ça absolument formidable. Et j'ai toujours cette différence, non pas la chose en soi, mais la différence. Mmh. Le fait qu'on soit différent à ce point, oh, ça c'était pour moi une chose merveilleuse. Mmh. Et donc voilà, j'ai gardé ça et avec en même temps la certitude qu'on était exactement semblables. Enfin, ça n'empêche pas, quoi. Mmh. Je veux dire, c'est même la condition, je ne sais pas comment dire, c'est comme quand on fait. Tu parles des racisés, je veux dire, quand on fait un film sur d'autres communautés, d'autres milieux, dont on dit beaucoup en documentaire, on va vers l'autre. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on va vers l'autre et que c'est une des beautés du cinéma documentaire. Mais c'est pour dire qu'on est une même humanité, bien entendu. Mm-hmm. C'est pas pour dire celui-là, j'ai rien à voir avec. Mm-hmm. Donc cette histoire d'une même humanité, pour moi, c'est tellement évident que voilà. Et je pense que ça se sent dans la façon dont on se comporte et dont on écoute et dont on parle. Voilà.
Et du coup, et Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire juste en quelques mots, tu as décidé aussi de mettre une voix off, on t'entend aussi dire quelques mots. Et toi, Stéphane, à l'inverse, on t'entend pas du tout. Alors, est-ce que peut-être, mais tu peux nous dire quelques mots et après, Stéphane, voilà pourquoi vous avez décidé ça.
Oui, je pense qu'il y avait, comme Claudine, cette idée d'une altérité, de faire rencontrer toutes ces voix d'hommes dans un regard symbolisé par la voix d'une femme. Et d'être aussi à la première personne, ça c'était, et de ne pas se noyer dans des considérations intellectuelles qui ont leur place, hein, bien sûr, mais sur un film documentaire, d'être dans le jeu, quoi, mm-hmm. Et un jeu de femme qui ne se dissout pas devant plein d'hommes. Mm-hmm. Et je pense que moi, du coup, j'ai eu des frères, j'en ai eu beaucoup. Je suis l'aînée d'une fratrie de 6. Donc, 5 frères. Ouais. Et donc, c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'étais retournée vers une sorte de fratrie comme ça, de brotherhood, comme ils disent. Surtout lorsque, voilà, ils font des pèlerinages dans la Somme. Et d'aller rencontrer
un grand autre, quoi. Ça, c'est sûr, il y avait ce désir aussi très, très fort.
Et du coup, Stéphane, de ton côté ?
Moi, j'arrivais dans un dispositif de travail, puisque Grégoire est au travail avec des gens en train de faire des photos. Donc, de toute façon, la question d'une voix ou de quelque chose comme ça, au moment, en tout cas, de des prises de vue, ne pouvait pas se poser, parce qu'il ne fallait pas que les gens me regardent moi. Enfin, il fallait quand même que je sois relativement discrète, qui est assez dans ma nature, donc ça me va bien. Je crois que... Voilà, donc... Après, il fallait que je sois moi quelque part, hein, qui soit pas cette place de spectatrice de la photo, puisque c'était la place de Grégoire. Et donc là, elle était assez physique finalement de m'approcher. Je me suis approchée petit à petit au fur et à mesure, je crois, des séances photo, d'être entre deux, entre le photographe et les gens dont il faisait le portrait. Et de raconter quelque chose de l'ordre du sensuel, des peaux, enfin il y avait des gestes, des regards, des échanges, enfin il y avait beaucoup de choses comme ça. C'est probablement un film moins dans la parole que celui de Claudine et Edmé, quoi. Il est plus dans quelque chose d'organique presque. Voilà, donc
mais au point de vue justement des cadrages, moi j'ai beaucoup aimé et chez les tournages avec la patte féminine chaînée qui a été réalisée donc par des hommes aussi, il y a un côté des cadrages effectivement très proches, effectivement on voit la peau, on voit les poils de barbe, on voit, c'est pas forcément très cadré, en tout cas chez May il y a des moments où c'est un peu décadré, il y a des moments où on les perd un peu, c'est pareil un petit peu chez toi, on descend sur une main, et j'ai trouvé ça très on a trouvé ça très très touchant, très très beau, et une belle manière de mettre en scène la parole en fait, et d'ailleurs c'était quelque chose aussi qui nous semblait dans les trois cas.
Pardon, ça met moins en scène peut-être la parole que la relation en fait. Moi j'avais une relation en fait, hein, ils étaient toujours deux, donc ça c'est aussi assez différent, et donc je filmais quand même la relation entre deux et voire entre trois. C'est-à-dire que Grégoire aussi, il était dans le photographe, dans les gestes, il les rapprochait, les éloignait, il les rassurait en les touchant. Donc il y avait, voilà, je filmais ça. Hein.
Je vous propose, dans le temps qui nous reste, il nous reste 10 petites minutes, si vous voulez passer justement à ces questions de l'enjeu politique derrière toutes ces questions de la masculinité, du patriarcat. Et justement sur le fait qu'il y a eu la vague MeToo qui est passée depuis la réalisation de vos films, est-ce que aujourd'hui c'est une question ouverte à toutes les trois ? Est-ce que vous feriez les mêmes films ? Est-ce que vous changeriez quelque chose dans l'approche ? Toi Claudine, surtout que enfin voilà, des années 80. Est-ce que qu'est-ce qui changerait ? Et aussi en discutant entre nous, on se disait qu'il y avait une grande absente qui a été vraiment pointée du doigt ces derniers temps sur la violence physique masculine, et comment vous l'intégreriez, si est-ce que vous l'intégreriez dans vos films.
Moi je sais pas si j'ai envie de faire un film aujourd'hui sur la violence, j'ai pas réfléchi sur la violence masculine. Ça m'intéresserait, c'est sûr. Mais comment aborder ça, franchement j'en sais rien. Enfin, à l'époque c'est pas ça qui m'intéressait, comme tu as pu voir dans le film. Aujourd'hui on en parle beaucoup, donc c'est déjà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement formidable tout ce qui sort là, tu vois, que ce soit du côté des rapports avec les femmes ou les enfants, parce que c'est énorme ce qui est en train de se passer. Il y a une révélation là, un effet de révélation sur les viols et en particulier les incestes, enfin bon, que je trouve mais absolument hallucinant, et que je trouve en même temps complètement révélateur d'une civilisation, enfin d'une civilisation patriarcale et de domination, je reviens, capitaliste, parce que je pense vraiment que ça a beaucoup à voir avec ça. Et je trouve ça formidable que ça sorte, quoi. Je trouve ça formidable, vraiment. Donc, je ne sais pas si j'aurais encore envie de parler de ça, parce que c'est tellement présent, tu vois, c'est tellement... J'aurais envie d'aller un peu plus loin, mais je ne sais pas où, quoi. Je ne peux pas dire. J'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses en ce moment qui sont d'un ordre... enfin, civilisationnel, quoi. Enfin, il y a une telle rupture dans la civilisation que tout ce qu'on a vécu là, ces dernières années, qui est absolument révolutionnaire au niveau du rapport homme-femme et de la violence qui sort et tout ça, ça peut être en même temps balayé complètement. C'est-à-dire,
c'est tellement
ça.
Fort.
Ouais. Mmh. Je pense aujourd'hui que, avec ce qui est en train de se passer au niveau de mondial, tous nos acquis peuvent disparaître, y compris celui-là. Il reviendra. Mmh. Parce que ça, je ne crois pas du tout que ce soit. C'est impossible que la vérité disparaisse. Mais là, en ce moment, c'est d'une telle. C'est une telle rupture. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Que j'ai l'impression qu'on risque, que de même qu'on a vu partout. Enfin, moi, j'ai évidemment pas votre âge, hein, je suis beaucoup plus âgée. Donc, j'ai été de cette génération qui a vraiment cru que le progrès existait, qu'on allait toujours vers le mieux, etc. Et bah, non, là, je vois qu'il y a une rupture de ce côté-là, parce que tout ce qu'on a cru, il est balancé, quoi. Mmh.
Mais on est encore là. On est encore là pour lutter.
Bien sûr, non, mais je suis pas.
Fait des digues. et du coup, est-ce que vous aviez le sentiment de faire un film politique à l'époque, en tout cas?
Oui.
Ouais.
Mais d'ailleurs, nous, en fait, on est arrivé après Me Too. Donc, ouais. Moi, je changerais l'introduction. D'ailleurs, on y réfléchit, mais je trouve que l'introduction n'est pas assez politique, justement. Mais c'est vraiment l'histoire d'une voix off ou l'histoire de panneaux de textes en introduction. Mais sinon, le film en lui-même, je ne changerais pas. Mais bien sûr, c'est un projet très politique.
Ouais, mais c'est celui où on le sent le plus affirmé, en fait.
Oui.
Par rapport à la guerre, par rapport à... Donc effectivement, et puis on sent qu'effectivement, oui, Me Too, enfin, il y a plein de choses, effectivement, qui ressortent très, 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 très fortement. Et Claudine et Stéphane, est-ce que vous avez eu le sentiment, Stéphane, par exemple, de faire un film politique ou pas? Est-ce que tu voudrais le faire plus politique si tu le refaisais ou pas du tout, enfin?
Moi qui fais toujours des films très politiques, j'ai pensé en faisant celui-là que je le faisais pas du tout. et que j'étais un peu ailleurs. Et en fait, effectivement, Me Too arrivant et tout ça, et tout à coup, il a pris tout à fait un autre sens. Il est lu très différemment aujourd'hui qu'il y a quelques années, en fait. Parce que je crois que je l'ai pas attrapé avec ce prisme-là, même si effectivement, ça posait la question de la masculinité et tout ça. Mais voilà, c'était un peu plus en suspens, enfin je sais pas comment, un peu plus suspendu. Et du coup, aujourd'hui en fait, c'est marrant parce que il est réutilisé je l'ai vu utilisé dans les publications, dans les articles, de façon très très différente de ce. Mais bon, ça c'est
de quelle manière tu l'as réutilisé?
Il est cité justement comme l'envers de enfin voilà, l'autre aspect des hommes, que c'est une autre façon. Mais comme un film éminemment féministe. Voilà. Et donc, voilà ce qui m'a. En fait, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit, je ne m'étais pas posé cette question-là. Alors que j'avais filmé, effectivement, dans un cadre d'un autre film, des groupes de parole d'hommes violents et tout ça. Là, j'étais dans cette question-là de façon très frontale. Mais là, j'avais moins l'impression d'être là.
Mais ouais, c'est vrai que j'ai aussi eu ce sentiment. Le film a été reprojeté au Festival du Réel il y a 2 ans parce qu'il a eu le prix Prélude. Donc il y a une restauration et tout ça. Et c'était un public de jeunes et qui était complètement, politiquement touché. Donc je me suis dit, finalement, c'était quand même un film politique, même si j'en avais pas forcément conscience à l'époque, mais je sais pas ce qui n'est pas politique.
Mais au moment où tu l'as projeté, tu nous racontais, il a été projeté au Festival de films de Créteil.
À l'époque.
En 80, quand il y a eu, tu peux nous raconter un peu la réaction? Est-ce que ça, c'était pas une réaction politique? Est-ce que tu peux?
À l'époque, c'était une réaction de ce qui semblait être l'avant-garde politique. Donc, l'avant-garde politique, c'était les féministes sur ce domaine, ce domaine. Hein. Ouais. Et comme elles étaient extrêmement hostiles, on pouvait se poser la question.
Elles ont réagi de manière très hostile.
Ah oui.
Ouais.
Mais genre quoi?
Genre, mais que c'est nunuche.
Ah ouais.
Quelle
ah ouais.
nunuche.
Ouais.
Ah, la pauvre petite.
Voilà.
Le service qui ah j'aime les hommes, j'aime les hommes. Eh ben aimez les hommes. Voilà, donc je les ai aimés.
Bah écoutez, merci beaucoup. On arrive malheureusement au bout de notre émission. Il faut qu'on garde quelques petites minutes déjà pour vous demander où on peut voir vos films.
Oui.
Et ensuite, on écoutera Colline qui nous parlera de l'agenda. Mais déjà, est-ce que y a comment on peut voir vos films bah, commençons par Claudine.
Bah, écoute, ils sont sur je sais pas quoi, Universiné, ce genre de choses, sur Prélude, puisque Prélude a fait la restauration, ils ont un site.
D'accord.
Et donc il est dessus, voilà.
Juliette des côtés des hommes. Ouais, ouais, on peut le retrouver sur le site internet de Prélude avec voilà, un S. Prélude. Voilà. Tu sais,
Prélude.
Bon, Prélude. Avec un S.
Avec un S.
À enquêter.
Ou Universiné.
Ou Universiné.
Ou Tank. Il est sur Tank.
Ah, il est sur Tank en ce moment.
Oui, 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 il est sur Tank.
Ok, super. De ton côté, Stéphane.
Alors, il est sur le site de Iskra. ISKRA. Ça, c'est sûr.
En VOD, c'est ça?
Ouais. Ouais. Oui, oui, il est pas. Je pense qu'il doit être aussi sur un site qui s'appelle Capucine. Oui. C-A-P-U-S. Deux E, N, Cine anglais. Et peut-être Univers Ciné, je ne sais pas.
D'accord. Ah. Donc ça, c'est pour Quelque chose des hommes quelque de chose. Stéphane Mercurio. Et pour toi, mais UA, je rappelle le titre Make Me a Man.
MakeMeAman.com.
Ah oui,
voilà,
on peut le voir en ligne.
Ouais, en fait, moi, j'ai mes deux films, et ce sera pareil pour le troisième qui arrive, ils sont sur leur propre plateforme. Et en fait, ouais, on distribue aussi le film.
Oui, mais on ne peut pas le voir en ligne.
C'est sûr, vous
on
les
peut
voyez,
le voir en ligne.
Ouais, ils sont en VOD. Et pour les Parisiens, on fait une projection rencontre à la Sorbonne le 12 mars.
D'accord.
Donc, venez nombreux, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire.
Sur makemeoman.com?
Non. Il y a un lien avec la Sorbonne, faut le trouver. Mais je te le donnerai. Désolée, je l'ai
non,
pas.
Non, pas de souci. Donc du coup, Make Me a Man projeté à la Sorbonne le 12 mars,
le
à quelle
12
heure
mars. À 20h30, je crois.
À 20h30, voilà. Pareil, les recherches sont lancées. Bon, Colline,
désolée.
Pas de souci.
Alors, les dates à retenir pour le mois de mars. Donc, on vous convie d'abord au samedi d'ad hoc, le 8 mars à 11h, comme d'habitude, au cinéma Luminor Hôtel de Ville. Vous pouvez y voir « Qu'on va, ce qui vient du silence » de Sarah Mélégol. Dans ce film, Sarah Mélégol affirme sa prédilection pour un cinéma de l'écoute. Elle a choisi de créer des situations de dialogue pour faire surgir une parole sur l'indicible. Ils étaient enfants au moment du génocide des Tutsis du Rwanda en 1994 et voudraient construire leur propre mémoire. Ils convoquent les images manquantes dans un dialogue intime avec leurs parents, rescapés ou bourreaux. Donc ça, c'est au Luminor, samedi. Ensuite, dans le cadre de Un docu près de chez vous, vous pouvez voir Féministe en tout genre de Béatrice Vernès le vendredi 7 mars à 19h à la Maison des réfugiés et médiathèque James Baldwin dans le Paris 19e. Le vendredi 7 mars encore, à la SCAM, il y a une journée de présentation des deux dispositifs d'aide à la création, Brouillon d'un rêve et Artiste en résidence chez Périphérie. Et à cette occasion, vous pourrez voir L'effet Bahamas d'Hélène Crozilla, ce film qui a été accompagné par les Pitch Tadoc en 2019, et le film est à 14h. Voilà pourquoi j'inverse les chiffres. Donc pensez à vous inscrire sur le site de Périphérie. Et d'ailleurs, c'est à noter que les Pitch Tadoc sont de retour. L'appel à projet de la 9e édition ouvrira à partir du 5 mars sur le site jusqu'en avril. Autre date ce mois-ci, le 47e Festival du cinéma du réel aura lieu du 22 mars au 29 mars 2025 dans quatre salles indépendantes, l'Arlequin, le Reflet Médicis, le Saint-André des Arts et le Christine Cinéma Club Paris, le Cinéma Club. À cette occasion, venez nombreux le samedi 22 mars à 10h au Christine Cinéma Club. Adoc vous invite à un débat autour de la question « Que peut le cinéma documentaire en temps de crise ?» Les invités sont Parfait Caboret, Sylvestre Menzer et Anna Roussillon. j'ai encore un peu de temps, les autres projections des réalisateurs et réalisatrices d'Adoc ce mois-ci, vous pouvez voir Ailleurs partout d'Isabelle Ingold et Viviane Perel-Multer. C'est projeté le vendredi 7 mars à 18h au cinéma Le Cosmos à Strasbourg. Vous pouvez également voir Hérédita de Jean-Luc Sesco, que nous recevrons bientôt, le mardi 18 mars à 19h30 aux Ateliers Varan, dans le 11e, dans le cadre des Soirées à l'œil. Il y aura la projection sera suivie d'un débat animé par Emmanuel Bidou. Et enfin, coup de projecteur sur la présentation des aides à l'écriture du CNC. Le CNC organise un webinaire à destination des auteurs le mercredi 5 mars. Toute la journée, il présente les 9 dispositifs de soutien à l'écriture. Voilà, c'est un moment d'échange, de questions et réponses. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site du CNC. Voilà, c'est la fin de... On a déjà traité le sujet. Toutes les émissions sont à réécouter en ligne sur le SoundCloud d'Adoc. Et vous trouvez toutes les informations sur le site d'Adoc, adoc.net. Bah, très bon dimanche et à bientôt.
Merci. Ouais.
Il est 17h et nous écoutons une version du mélange qui va durer jusqu'à 18h30 ici même sur 89.4 FM, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30 et on va commencer avec un anniversaire du jour de le guitariste irlandais. La fierté de l'Irlande, Rory Gallagher, enregistré ici à l'île de Wight, j'y étais, en 1970, et un classique, Sugar Mama. Louisiana.
nos femmes. Woman!